J'écoute le son merveilleux de cette cloche Mohammed Nama. Vraie demeure. Bonjour, ma chère retraite. Ce matin, j'ai eu un très bon petit déjeuner. Hier soir, j'ai eu une très bonne nuit de sommeil. Je pense que l'effet du décalage horaire est encore là parce qu'à 9h30, j'étais parti au pays des songes. Et je me suis réveillé ce matin sans avoir entendu la cloche. Mais à temps pour le petit déjeuner. Yes. Donc nous sommes le 27 avril 2018 et nous sommes toujours à la Villa Saint-Martin. Deuxième jour de la retraite, déjà. Deux jours et quelques heures de plus à passer ensemble. Beaucoup de choses à vous raconter, que j'ai ramené, et je ne sais pas par où commencer. Il y a ce précieux document que je voudrais vous partager. Ça s'appelle « Recommandation du Maître » et ça a été écrit le 30 juin 2014, c'est-à-dire 4 mois avant que Thay arrête de parler. Et Thay l'a écrit de ses propres mains. Il dit, je suis content et heureux d'avoir pu le faire. Et nous sommes très heureux de pouvoir lire ces recommandations. Donc ça, c'est une chose que je voudrais partager avec la communauté. Et c'est aussi ce que je vais essayer de partager lorsque je vais poursuivre mon voyage aux États-Unis. Je vous parle et j'ai un peu les frissons, parce que c'est comme si Thay était là pour nous parler. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Donc revenons à nos moutons, à notre retraite. Le thème de la retraite, sans bout, pas de lotus, c'est la poursuite de notre année d'études sur les 50 versets et les 40 tenets et les 40 principes du village des pruniers. Pour les amis qui sont ici pour la première retraite, je ne sais pas si une petite révision des 50 serait de mise. Peut-être un peu. Donc nous avons appris avec les 50 versets comment notre esprit fonctionne. Et nous voulons apprendre comment l'esprit fonctionne pour mieux comprendre pourquoi nous pratiquons ou les raisons de comment les pratiques qui nous sont enseignées peuvent nous aider. Nous avons appris que l'esprit est le maître de notre destinée, est le maître de notre vie, est le champion peintre qui nous a peint la vie dans laquelle nous sommes. La Villa Saint-Martin, cette sangha, cette retraite, le Canada, l'univers est une image de notre esprit et nous vivons dans cette réalité que notre esprit nous montre. Et lorsque je parle de notre esprit de cette façon-là, je nous inclus dans cet esprit. Cette personne qui est ici et qui vous parle est une manifestation de votre esprit et c'est aussi une manifestation de mon esprit. Et c'est là que nous nous rejoignons et c'est pour ça que nous faisons partie de cet grand ensemble où nous sommes des manifestations indépendantes d'une plus grande réalité. Lily vous a parlé des vagues sur l'océan. Je suis une gouttelette de cet océan et vous êtes aussi une gouttelette de ce même océan. Et c'est pour ça que nous sommes connectés. Alors le thème de cette journée aujourd'hui, ce que Lily voulait que je vous parle, c'est du thème inter-être, inter-being. Et inter-being, c'est l'un des principaux enseignements que je vous avais mentionné que Thay veut nous laisser. Donc les deux grands principes interbeing et vivre heureux dans l'ici et maintenant sont la base de notre pratique et de nos études. Inter-être. Une des façons de le voir, c'est qu'il n'y a rien qui puisse exister de soi-même et que tout doit dépendre de tout le reste pour pouvoir être. Lorsque j'ai commencé à apprendre de Thay, Thay nous parlait souvent de la fleur. Et je ne vous ai pas fait le truc parce que vous le savez déjà, mais Thay a répété un enseignement que le Bouddha a donné à Mahakasyapa. C'était une journée de une soirée de pleine lune. Et la communauté des 1500 moines était là en silence, respirer, souriant, attendre un enseignement du Bouddha. Lorsque le Bouddha est apparu, ils se sont tous mis comme il faut pour attendre l'enseignement. Et cette journée-là, le Bouddha a juste pris une fleur et n'a rien dit. Pendant très longtemps. C'est ce que je voulais faire parce que je ne savais pas quoi vous dire. Mais je ne voulais pas vous jouer ce tour. Donc au bout de, 15 minutes, une demi-heure, les jeunes moines commençaient à bouger. Et puis là, ils ne tenaient plus, ils se donnaient des... Et peu à peu, cette frénésie, cet état d'âme a gagné tout le monde. Et toute l'assemblée commençait à être nerveuse. Et Bouddha, par compassion, leur a adressé finalement la parole après, quelques heures, pour leur dire, je sais que vous attendez après un enseignement. Mais l'enseignement était déjà là. Et il y a juste un seul qui a compris et qui a reçu l'enseignement. Et il a les yeux du Bouddha, il a les oreilles du Bouddha, il a le cœur du Bouddha. Et il a pu comprendre, recevoir l'enseignement. Alors donc, Thay a fait la même chose. Mais c'était pour un autre message et c'était pour enseigner l'inter-être. Et il nous a tenu la fleur et il nous a dit, observez la fleur, regardez la fleur. Qu'est-ce que vous voyez dans la fleur? Et là, je vous parle il y a 35 ans, donc il n'y avait pas de livre d'écrit, mais maintenant cette histoire est racontée, donc tout le monde la connaît. Mais il nous a invités à regarder la fleur et il nous a suggéré de voir que dans la fleur, il y avait du soleil, qu'il y avait de l'eau. Vous ne pouvez pas voir avec ça? Donc, qu'est-ce que vous voyez dans cette fleur? Donc, Thay nous parle du soleil, Thay nous parle de la terre, Thay nous parle de l'eau, Thay nous parle du fermier, pas du fermier, du jardinier. Et là, si on le regarde, on peut voir même l'avion dans lequel il est venu, parce qu'il paraît que ces fleurs viennent de Hollande ou bien de plus loin. Et à la fin de l'enseignement, Thay nous l'a dit, cette fleur contient tous les éléments non-fleurs. C'est une fleur, et c'est une fleur parce qu'elle contient tout ce qui est non-fleur. Et la seule chose qu'elle n'a pas, c'est son identité de fleur. Et c'est ça l'enseignement de l'inter-être que Thay nous l'a donné il y a 30 ans. La fleur contient tous les éléments non-fleurs. Et la seule chose qu'elle n'a pas, c'est son identité. Donc elle n'a pas de soi séparé. Il n'y a pas de fleur séparée. Il ne peut y avoir qu'une fleur qui dépend, qui interdépend de tout le reste. Et lorsque nous pouvons voir une fleur de cette façon-là, lorsque nous avons appris, lorsque nous apprenons à regarder une fleur de cette façon, nous pouvons voir la même réalité dans chaque chose qui nous entoure. Je regarde ce coussin vert et je pense à Diane. Je ne sais pas si elle y est pour quelque chose, mais elle est... Ok, peut-être pas cela, mais... Un coussin, une tablette, un tableau, cette église sont toutes empreintes de la même réalité. Elles ne peuvent pas être, il n'y a rien qui puisse être. Tout ne peut qu'interêtre avec tout le reste. Rien ne peut être by itself alone. Il n'y a rien qui peut être sans dépendre, sans être relié, sans interagir avec tout ce qu'il y a d'autre. Alors, lorsque nous regardons un set de réalité de l'interagir, nous comprenons aussi que cette fleur qui est là, parce qu'elle est en interaction et en interrelation avec tout ce qu'il y a autour, ne peut pas rester dans cet état plus qu'une minute, ou bien plus que le temps d'une respiration. Et parce que je l'ai sorti de l'eau, j'ai changé ses conditions et je la remets dans l'eau, ce n'est plus la même fleur. Et en fait, ce soir, demain soir, après demain soir, elle va probablement se retrouver chez moi. Parce que je demande toujours si je peux ramener les fleurs. Je suis un peu mieux bienvenu lorsque je reviens avec quelque chose. Alors un bouquet de fleurs, ça fait toujours plaisir. Et je vous amène donc avec moi, avec ce bouquet de fleurs, et je vais les offrir là où je vais être dimanche. Je ne sais pas encore où. Et dans quelques jours, cette fleur va se ramasser dans un parc de compost. Donc la fleur est en train de devenir un tas de compost. Et je pense qu'à Montréal, on a maintenant des cycles de recyclage, pas de recyclage, mais de compostage. Le compost qui va sortir de ces sites de compostage va se ramasser quelque part dans les campagnes du Québec. Et peut-être que l'an prochain, lorsqu'on va revenir, et qu'on va goûter à la cuisine d'ici, on pourra goûter à une fraise ou à une tomate qui aura pu profiter du compostage de cette fleur. Et ainsi va la vie. C'est une histoire qui est très simple. C'est une histoire qui est... mais très profonde. Et je nous invite à méditer sur ce thème. Je vous le rappelle, c'est un des enseignements les plus importants de Thaï. Nous portons la veste brune parce que faisons partie de l'ordre de l'interêtre. Et interêtre a été un mot qui a été inventé par Thaï. Il n'existait pas avant. N'est-ce pas? Et Thaï a parlé de l'interêtre lors d'une conférence mondiale sur les religions. Et lorsqu'il était invité à parler du bouddhisme, il a dit, je peux vous le donner en un mot, interbeing. Et il a pris l'exemple de la table autour de laquelle il était assis. Alors, interbeing, inter-être, c'est l'enseignement et c'est l'héritage de Thaï. Et c'est le résumé de toute la sagesse, de toute sagesse ou du Bouddha, du bouddhisme. Sœur Annabelle, qui est l'une des meilleures élèves de Thaï, c'est en fait le Kassap. Sœur Annabelle est celle qui traduit tous les textes pour Thaï. Et je pense que dans la communauté maintenant, on peut la considérer comme la plus scolastique. Mais l'analyse des textes et puis tout ça, c'est elle la championne. Et comme pratiquante, elle a pratiqué très dur. Parce que c'était presque une sœur catholique. Elle était, je ne sais pas si elle était devenue, mais ça faisait partie de sa vocation et de son entraînement avant de rencontrer Thaï. Et elle était, si elle ne l'est pas, c'était quasiment une sœur dans l'ordre, dans un ordre catholique ou chrétien. Donc très sérieuse et très. Et quand elle a rencontré Thaï, elle a pratiqué avec la même ardeur et la même rigueur. C'est une fille qui ne sortait pas de son lit tant qu'elle n'a pas réussi à sourire le matin. Parce qu'elle a voulu pratiquer « Je me lève en souriant, je me réveille en souriant pour recevoir 24 heures toutes nouvelles. » Je fais le vœu de les vivre dans la pleine conscience et de regarder tous les êtres avec les yeux de la compassion. Elle s'est dit, je vais pratiquer cela. Et les matins où elle ne pouvait pas le faire, elle ne sortait pas de son lit jusqu'à ce qu'elle puisse sourire pour pouvoir le faire. Donc pour vous dire la rigueur avec laquelle elle s'est accrochée, elle s'est attaquée avec à l'enseignement. Et maintenant, il y a 2 ans, lorsqu'elle a donné, lorsqu'elle a enseigné dans une retraite pour les enseignants du Dharma à IAEB, elle a enseigné les 40 principes. Et ce qu'elle dit, c'est, je ne veux pas gaspiller mon temps. Lorsque je suis assis en méditation, à être dans le plaisir et dans l'extase de la méditation. Je veux passer en travers de cela au bout de 3 respirations pour arriver à l'étape ou bien pour entamer l'étape de l'observation profonde. Et le thème de son observation profonde, c'est quoi? Inter-être. Alors elle s'assoit en méditation pour contempler le thème de l'inter-être. Ok. Donc, inter-être, inter-being, c'est un thème qui est difficile pour moi de couvrir en 1 heure. C'est comme un poisson qui demande où se trouve l'eau. Vous connaissez cette blague chinoise? Le poisson qui demande à l'autre poisson, sais-tu où est l'eau? Merci. C'est ça que j'essayais de faire, vous faire rire. Mais c'est la réalité dans laquelle nous baignons. Nous trempons. Et je me souviens qu'il y a 1 ou 2 retraites, je vous ai parlé de Maître Arnaud Desjardins, qui nous comparait à des bouteilles dans l'eau. Cette image de l'inter-être, cette image des poissons qui se posent cette question, nous ramène à cette image. Et la contemplation, la pratique que Sœur Annabelle essaie de faire, c'est de pouvoir se libérer de cette bouteille pour pouvoir être dans sa vraie demeure. Sortir de la bouteille pour rejoindre sa vraie demeure. Alors lorsque nous écoutons le son de la cloche, j'écoute ce son merveilleux qui me ramène à ma vraie demeure. C'est cela que nous pouvons faire. Où est ma vraie demeure? Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je m'en vais? Et tout comme la fleur, parce que nous avons appris à contempler la fleur, des éléments de réponse vont venir. Et nous verrons que nous ne sommes pas très différents de la fleur, à part du seul point de notre identité, nous sommes juste comme la fleur, ni plus ni moins, aussi belle que la fleur, aussi fraîche que la rosée. Je suis chez moi, je suis arrivé. Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de profondeur dans chacun de ces mots. Il ne faut pas les sous-estimer, mais s'en servir comme indice pour pouvoir mesurer notre progrès. Notre progrès sur quoi? Notre progrès sur notre vision. Le but de notre pratique, hier Lily a dit c'était rien. Et elle a raison. Parce que le bouddhisme, c'est aussi la non-atteinte. Nous n'avons pas d'objectif à poursuivre. Parce que tout est déjà dans l'ici et maintenant. Mais, c'est là que le bouddhisme est amusant. On peut dire n'importe quoi et avoir raison. Et ça ne veut surtout pas dire se complaire. Accepter ne veut pas dire se complaire. Accepter veut juste dire, je sais que tu es là, mais je sais que tu vas partir. Je sais que tu es là, tough luck, je suis pris avec. Mais je sais aussi que tu ne peux pas durer indéfiniment. Et que tôt ou tard, on va s'en séparer. On va se séparer. Donc, notre pratique, c'est de parfaire notre vision. C'est de pouvoir voir de mieux en mieux la réalité telle qu'elle est. Parce que la vision que nous avons est une vision qui est déformée et obscure. Et cette pratique nous permet de pouvoir nous rapprocher de la réalité, sortir de nos illusions, pour pouvoir nous en libérer et ne plus souffrir. Nous souffrons parce que nous vivons dans un monde d'illusions que nous prenons pour la réalité. Et lorsque la réalité se pointe, on souffre parce qu'on s'accroche à nos illusions, parce qu'on prend nos illusions pour des réalités, alors que ce ne sont que des visions et des perceptions erronées. Alors donc, contempler l'impermanence, contempler l'interdépendance, contempler l'inter-être, vivre l'inter-être, c'est pour nous permettre de pouvoir voir cette réalité que nous sommes beaucoup plus grands que ce corps de 60 kilos, trop lourd. Et c'est un exercice que nous devons que nous pouvons faire à chaque instant, à chaque respiration et à chaque pas. Nous pratiquons la pleine conscience. Et un ami que j'ai qui s'appelle le docteur Béliveau nous dit « La pleine conscience est trop grand. J'essaie de pratiquer la petite conscience. » Et c'est parfait. Juste un peu de conscience, c'est déjà mieux que pas de conscience. Et la présence, plutôt que la conscience, est cette pratique que nous voulons nous rappeler et que nous voulons parfaire. Et ça s'appelle mindfulness, et ça s'appelle smriti. Sati. Smriti. Traduction, pleine conscience. Donc, cette présence à ce qui est en train de se passer en nous et autour de nous, lorsque nous la pratiquons, nous permet de mieux nous concentrer, de mieux nous concentrer pour mieux comprendre, pour mieux voir. Et ce sont les trois piliers du village des pruniers. Smarti, la pleine conscience. Samadhi, la concentration. Prajna, la vision profonde, la compréhension. Et qu'est-ce que nous, sur quoi nous nous concentrons? Nous pouvons choisir ces thèmes et le thème de contemplation, de pratique, de méditation que Sœur Annabelle contemple, c'est le thème de l'inter-être. Si nous pouvons voir, nous voir avec les yeux de l'inter-être, si nous pouvons voir ce qui nous entoure avec les yeux de l'inter-être, beaucoup de nos maux et souffrances se dissolvent, se dissoudront, parce qu'elles ont à la base cette ignorance, cette, j'ai utilisé le mot bêtise, mais cette croyance, cette fausse croyance que nous sommes séparés de tout ce qu'il y a autour de nous. Et lorsque nous avons appris les 50 versets, nous avons reconnu qu'il y a quelque chose dans notre conscience qui fait cela. Et nous l'avons identifié comme étant la 7e conscience, le manas. Le manas qui est là et qui nous regarde comme une entité séparée de tout le reste et qui est là pour constamment nous protéger de tous les dangers qui nous entourent. Parce qu'elle est là et parce qu'elle nous souffle, elle nous suggère comment agir pour pouvoir nous protéger. Nous nous sommes isolés et nous sommes rentrés dans cette bouteille que Maître Arnaud Desjardins mentionne. Alors la bouteille, c'est la menace. Alors, il faut casser la bouteille. Et on vient de tomber dans le non-nom du bouddhisme, c'est-à-dire enlever ce que nous n'aimons pas. Il y a une discrimination entre le bouchon et la bouteille. Nous venons de parler du manas comme de cette partie de notre conscience qui nous trompe et qui nous fait voir la vie dans son côté dualisme et nous séparons le bien du mal et le mal du bien. Et la gauche de la droite et le dessus du dessous. Et notre tendance, c'est toujours grasp on, essayer de courir après et de garder et de retenir ce que nous aimons et chasser, nous éloigner de ce que nous n'aimons pas. Et c'est comme ça que nous nous sommes formés nos habitudes. Et c'est comme ça que nous avons bâti notre monde, avec les bons et les méchants, les bons chez nous et les méchants de l'autre côté. Et c'est comme ça que nous avons eu des guerres, et c'est comme ça que nous sommes encore en guerre maintenant. Nous sommes en guerre dans le monde, nous sommes en guerre dans notre famille, et nous sommes en guerre à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a toujours le saint et le démon, il y a toujours le blanc et le noir. Il y a toujours le bon et le mauvais. Mais lorsque nous apprenons l'inter-être, lorsque nous regardons le monde avec les yeux de l'inter-être, nous comprenons que le bien est fait du mal et que le mal est fait du bien. Que cette fleur provient du compost et que cette fleur va devenir compost. Et que si nous enlevons le compost, la fleur ne pourra pas exister. C'est un concept qui est très difficile à accepter. Et nous ne pouvons pas l'apprendre de façon intellectuelle. Parce que tout notre être a été formé de cette façon-là. Il est blanc, il est bon. Il est noir, il n'est pas bon. Nous sommes nés avec cette croyance. Et nous agissons, nous pensons, nous parlons de cette façon-là, en fonction de cette croyance. Thay nous a donné dans les lectures, dans les prélectures, une très belle image. l'image du une personne qui a très soif et à qui on donne une un bol d'eau boueuse, sa vie en dépend. L'eau n'est pas pure. S'il se débarrasse de l'eau, il va mourir. Alors il garde l'eau et il cherche un moyen pour filtrer l'eau, pour pouvoir boire l'eau et continuer de survivre. Et c'est cela que nous appelons accepter la vie telle qu'elle est. Il y a des choses qui vont à merveille. Il y a des choses qui vont moins bien. Mais c'est un whole package deal. You take it or you don't. On peut pas choisir. On peut pas couper le monde en deux. Ça ne peut pas marcher. La bonne nouvelle que nous avons appris lorsque nous avons appris les 50 versets du fonctionnement de l'esprit, c'est que nous avons une chose qui est merveilleuse et qui s'appelle Alaya. Mais le Alaya, c'est cette conscience de tréfonds qui est à la base de notre conscience et qui est aussi à la base de notre... Donc, lorsque je parle de conscience, je parle de notre esprit. Et donc, cette conscience de tréfonds contient tout ce qui nous détermine, contient tout ce qui détermine notre vie et notre environnement. Lorsque le matin vous regardez le soleil qui se lève, c'est une image de cette qui provient de votre conscience de tréfonds. Et cette conscience de tréfonds contient toutes les graines possibles et imaginables, les graines que vous voyez qui se manifestent et les graines que vous ne voyez même pas et qui sont enfouies profondément dans votre conscience de tréfonds. Tout ce qui porte un nom, et on appelle cela un dharma, est dans votre conscience de tréfonds. Il n'y a rien que vous pouvez nommer qui n'est pas là-dedans. Vous priez et vous appelez le nom de Jésus parce qu'il est dans votre conscience de tréfonds. Vous avez toutes les graines de colère et vous avez aussi toutes les graines d'amour et de paix en vous. Vous avez aussi les graines de compassion. Vous avez aussi les graines de pleine conscience et vous avez toutes ces graines à l'intérieur de vous qui vous sont transmises de vos ancêtres, qui vous sont transmises de votre environnement, qui vous sont transmises des retraites que vous, de partout. C'est une grosse machine qui enregistre tout ce que vos sens vous mettent en contact avec. Et même ce que vous ne pouvez pas percevoir. Alors grâce à cette grande en plus de cette capacité de recevoir et d'emmagasinage, il y a une chose merveilleuse que cette conscience-là retient également, c'est les leçons. Vous souvenez-vous comment c'était lorsque vous avez commencé à pédaler, ou à skier, ou à jouer au tennis? Comment c'était difficile. Mais je me souviens encore comment, lorsque j'ai appris à pédaler, j'avais une bicyclette avec deux petits trous à côté. Et là, mes parents m'ont joué un tour, puis ils ont monté un peu les trucs. Puis ils ont enlevé une roue. Et maintenant, je peux quand même aller sur une bicyclette avec deux roues. Pas sur une, mais deux. Mais tout ça, c'est grâce à cette capacité de ma conscience de tréfonds à retenir des leçons. On apprend. Au début, c'est dur, c'est difficile. Et ça devient une habitude. Et on peut pédaler des fois sans tenir le guidon, pas trop longtemps. Et cette capacité-là que la conscience de tréfonds a à retenir des leçons, c'est ce qui peut nous permettre de pouvoir avancer sur le chemin de la pratique et atteindre la vision profonde. Nous écoutons un son de la cloche et nous sommes en train de faire quelque chose. C'est-tu emmerdant? On voudrait finir ce qu'on est en train de faire. Et là, la cloche sonne et il y a un moine qui vous regarde. Vous faites ça pour qu'il voit bien que c'est trois respirations, puis vous reprenez. Et pour cela, nous revenons au premier enseignement. Trista Dharma Sukha Vihari. Nous revenons dans le refuge de l'instant. Et j'aime beaucoup ce mot. Le refuge. Et c'est ça que le dernier mot veut dire. Vihari. Donc Vihari, c'est le refuge. Sukha, c'est le bonheur. J'aime pas le mot bonheur, mais on va dans le refuge. Prendre refuge dans le bonheur. C'est du beau. Et le son de la cloche, c'est cette invitation à revenir dans ce refuge de l'instant. Et c'est une pratique. Et lorsque nous pouvons goûter à ce plaisir de l'instant, nous disons merci à la cloche de nous le rappeler. Et plus nous pratiquons, et plus ce bonheur devient réel et vrai. Et lorsque nous pouvons baigner dans ce bonheur, le son de la cloche n'est plus un emmerdement, n'est plus quelque chose qui nous agace, mais devient une invitation bienveillante. Et nous sommes heureux d'y retourner. Et cela devient une habitude. Et c'est comme cela que nous nous créons ce que j'appelle l'habitude du bonheur. Le bonheur est une habitude. Le bonheur est une habitude que nous pouvons créer. Et nous utilisons nos consciences sensorielles. Nous utilisons notre conscience mentale afin de pouvoir imprimer ces leçons dans notre conscience de tréfonds. Et lorsqu'elles sont dans notre conscience de tréfonds, ça devient des habitudes. Des habitudes de bonheur. Et quelle que soit la place ou l'endroit où nous sommes, nous pouvons retourner à cette chose-là. Et c'est pour ça que j'aime le mot refuge. Parce qu'il n'y a aucune place où ce refuge peut ne pas exister. Parce que nous la transportons avec nous dans notre conscience de tréfonds. Nous avons la chance d'avoir un maître qui est un poète. Et c'est pour ça que lorsqu'il parle et lorsqu'il enseigne, ce sont des très belles paroles et de très belles images. Mais il y a beaucoup d'enseignements dans ces images. Et la seule façon de pouvoir toucher aux enseignements qui sont dans ces images, c'est de s'asseoir avec. Et chaque image peut nous révéler beaucoup de leçons. Des leçons que nous pouvons tirer de notre propre vie. Et c'est cela que je trouve qui est le mérite dans les enseignements de Thay, c'est ce n'est pas « fais ceci, fais cela » ou bien « j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Mais il donne une image. Et si nous regardons l'image, nous pouvons refléter notre vie en travers de ces images et y en tirer les leçons qui sont pertinentes pour nous dans notre vie, à nous. Les souffrances que Thay a eues sont immenses. Mais ce ne sont pas les mêmes souffrances que nous avons. Voyez-vous le lotus avec dans lequel nous sommes en train de vivre et que nous sommes en train de savourer? Est-ce que vous le voyez? C'est pas un lotus, c'est un champ de lotus dans lequel nous sommes, dans lequel nous baignons. Les enseignements de Thaï sont en train d'être collectés sous un titre qui s'appelle l'épanouissement du lotus à 1000 pétales. Et Thaï, il dit que lorsque le lotus commence à sortir, ce n'est pas seulement un lotus, mais c'est des milliers de lotus en même temps. Alors, watch for yours, attendez le vôtre. Parce que lorsque vous le verrez sortir, c'est qu'il y a des milliers qui sont prêts et qui vont sortir aussi. Et présentement, nous sommes assis dans un de ces lotus qui a ses racines très profondes. Vous savez comment un lotus se propage? Par un noyau très dur. On doit le frotter sur du ciment ou bien avec du papier sablé pour enlever le vernis de la coquille. Et on le trempe dans l'eau. Si on ne le fait pas, l'eau ne peut pas pénétrer et le bouton ne pourra jamais germer. Là, il commence à germer et là, on le met dans la boue. Mais lorsqu'elle commence à sortir et à fleurir, ce n'est pas seulement le dessus, c'est ce qui se passe dans la boue aussi. Il y a des racines et des bulbes qui se passent et se promènent dans la boue et sortent là où ils décident de sortir. Donc c'est pour ça que lorsque nous voyons un lotus, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées dans la boue qu'on ne voit pas. Et ces racines se propagent partout et bientôt l'étang va être rempli. Va être rempli de lotus. Et quelqu'un va recueillir les boutons et puis va les amener en Europe, il va les amener aux États-Unis et ils fleurissent partout. Et ils sont en train de fleurir ici, à la Villa Saint-Martin. Et le lotus dans lequel nous sommes assis est le lotus que nous sommes en train de savourer à ses racines au Vietnam. Ce que Thaï raconte, ce que j'entends maintenant lorsque je suis au Vietnam, les débuts de la pagode de paille, et c'est dommage que Sœur Phignung n'est pas ici parce qu'elle était là. Dans le temps, c'était une maison avec de recouverte de paille, et c'était ça, voilà, la pagode de paille. Et la pagode de paille abritait les jeunes travailleurs sociaux pendant la guerre du Vietnam. Et pendant la guerre du Vietnam, les élèves de Thaï, les travailleurs sociaux, allaient dans les campagnes, au milieu des balles, entre les deux lignes, pour essayer de soulager la souffrance des paysans qui étaient là, qui se faisaient bombarder le matin et incendier le soir. C'était des jeunes dans la vingtaine qui répondaient à la souffrance en offrant leur service pour pouvoir soulager la souffrance. Et pour moi, c'était déjà les premiers lotus qui ont fleuri. Dans la boue de la guerre, la compassion est née dans le cœur de ces jeunes. Ils apportaient leur soutien et leur aide en dépit des dangers pour leur propre vie. Et cette compassion et cet amour sont des lotus qui sont nés de cette souffrance. Thaï était là comme un moine et il y avait beaucoup de détresse autour de lui. Et on lui demandait, Thaï, penses-tu que cette guerre va se terminer? Et Thaï nous écrit, j'avais des doutes. L'armée américaine est tellement grande. Les Chinois ne voulaient pas lâcher le morceau. Qui sommes-nous? Que pouvons-nous faire? Mais il dit, devant tant de détresse et de désespoir, je ne pouvais faire autrement que de leur dire, tout est impermanent. Et là, cette guerre va aussi finir, parce que cette guerre est aussi impermanente. Même si à l'intérieur de moi, j'avais beaucoup de doutes sur ce qui pouvait arriver et sur ce qu'on pouvait faire. Et revenir au Vietnam, où maintenant, ils organisent des journées de pleine conscience à chaque mois. Et aux 2 semaines, les récitations des 14 entraînements. Et j'y rencontre ceux qui étaient là, dans ce temps-là. Ils ont maintenant 80 ans. Et ils pleurent encore, en rappelant ses souvenirs. L'enseignement de Thay, ne pas tomber dans le désespoir, avoir confiance en l'impermanence. Et une chance qu'il y avait des personnes comme lui qui croyaient et qui ont continué en dépit de, malgré les conditions. Alors la leçon que nous pouvons retenir de cela, quelle que soit la condition dans laquelle nous sommes, avoir confiance. L'impermanence est là et que les lotus et la boue intersont. Et que plus la boue est puante et noire, et plus les lotus seront éclatants. Plus sombre est la nuit, et plus brillante une bougie peut être. Ne pas tomber dans le désespoir. Accepter la situation dans laquelle nous sommes. Parce que tout est impermanent, et tout peut changer, et tout va changer. Et lorsqu'il fait noir, il ne peut faire que plus clair. Et lorsqu'on est au plus bas, on ne peut que remonter. Alors, la boue et le lotus. Le petit lotus dont je vous ai parlé est en train de fleurir partout dans le monde. Et je rencontre maintenant une nouvelle génération de Vietnamiens. Ils ont 25 ans. Ils ont 20 ans, ils ont 30 ans, et ils sont beaux et fiers. Ils n'ont jamais connu la guerre, mais ils sont en train de fleurir. Et ce sont des lotus qui ont pris racine et qui ont fleuri à partir de la guerre du Vietnam. Alors, sans boue, pas de lotus, ce n'est pas juste une image ou un concept, c'est une réalité. Cette terre dans laquelle nous sommes. Regardez la souffrance qu'il y a. Regardez ce que nous avons aujourd'hui. Imaginez-vous dans la peau des Premières Nations. Vous étiez bien. Vous alliez à la chasse en hiver. Ou bien je ne sais pas quand ils vont à la chasse. Vous alliez à la pêche. Et vous viviez en paix. Imaginez la souffrance qu'il y avait. Et regardez ce que nous avons maintenant. La souffrance et le bien-être sont les deux côtés de la même médaille. Le matin, lorsqu'on entend les oiseaux chanter, c'est qu'on ne comprend pas la souffrance des chenilles et des insectes. Parce que c'est le temps de leur festin, et puis c'est pour ça qu'ils sont contents, c'est pour ça qu'ils chantent. Et mettez-vous dans la peau d'un ver qui est en train de courir pour se cacher, et qui peut juste faire ça. La réalité de l'être, insurpassable, un mantra de la Prajnaparamita, et ainsi proclamé. Il reste 3 minutes avant le lunch, et je m'aperçois que le Dhammatalk que j'ai préparé est encore laissé de côté. un point important que je vais vous apporter quand même, ou bien peut-être une leçon à retenir de l'inter-être, c'est que nous ne sommes pas séparés et que nous sommes constamment en train de recevoir. Et que c'est toujours notre choix de recevoir ce que nous pouvons, ce que nous voulons recevoir. Et ce n'est pas en rentrant dans notre bouteille que nous pourrons continuer de recevoir. Mais c'est en sortant de notre carapace, c'est en nous ouvrant le cœur. Mes amis me demandent pourquoi tu passes tout ton temps, pourquoi tu fais tout ce que tu fais, pourquoi tu es toujours en train de voyager. Et partout où je vais, le monde est très reconnaissant et ils me disent merci. Et je leur dis, vous savez, c'est moi qui dois vous remercier pour tout le travail que vous faites pour me recevoir. Parce que je reçois beaucoup plus que ce que vous pouvez recevoir. Et pourquoi? Parce que je m'ouvre et je m'expose. Et parce que je m'expose, je reçois. Et c'est ce que je reçois qui me soutient et qui me permet de pouvoir faire ce que je fais et vivre ce que je vis. Et je regarde mon maître, et c'est la même chose. S'il est encore là capable de continuer d'enseigner, c'est parce qu'il est présent et ouvert, et il reçoit l'énergie de toutes les sanghas du monde qui le lui envoient. Et quand vous le voyez, vous voyez la force et l'énergie qu'il a. Même s'il ne peut pas marcher, même s'il ne peut pas parler, il reçoit l'énergie de tout ce que lui envoie et de l'univers tout entier. Alors le réflexe de s'isoler, le réflexe de se couper du monde, c'est malheureusement se couper de toutes les sources d'alimentation que l'univers peut nous envoyer. Lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on est dans des situations difficiles, notre tendance est des fois de rentrer dans notre coquille. Et c'est peut-être la bonne solution. Ce n'est pas sûr. On ne sait pas. Et j'avais dit à David, faire la même chose et s'attendre à des résultats différents, c'est drôle. Essayons quelque chose de nouveau. Et c'est ce que j'ai fait et ce que je fais souvent. Lorsque je suis dans une situation que je pense que je ne suis plus capable de dealer avec, je le laisse de côté et je fais d'autres choses. Et je dis, Bouddha, faites-le pour moi, pendant que je m'occupe ailleurs, et les choses se règlent. S'acharner à vouloir changer notre vie, à faire la même chose. C'est, je ne sais pas quel mot utiliser. Peut-être que je pourrais le mettre d'une autre façon. Notre situation actuelle, la vie que nous avons présentement, incluant toutes les difficultés et les bonheurs, sont le résultat de ce que nous avons fait jusqu'à date. Vouloir le changer en faisant la même vie, good luck. Et je vous ai donné une formule qui s'appelle « Créer des nouvelles habitudes de bonheur ». Try it. Essayez cette nouvelle formule. Ça peut ou ça peut ne pas, mais on ne saura pas si on n'essaie pas. Alors commencez à essayer pendant cette retraite. Et en écoutant le son de la cloche et en contemplant et savourant notre repas.